Chapitre 68. Un rapace planait au-dessus de la vallée. Ses ailes brunes, déployées, pour glisser sur les courants d'air, avec une grâce hypnotisante. Il effectuait des cercles de plus en plus petits. Ludivine ne le lâchait pas du regard. Assis sur un éperon rocheux, surplombant la pente de la montagne. En contrebas, les pâturages et les conifères alternaient sous le soleil du printemps. Les montagnes en face, elles, étaient dans l'ombre. D'immenses falaises grises, des blocs de roches monumentaux qui dominaient la vallée dans un équilibre presque dangereux. Des pics et des sommets enneigés si hauts qu'ils semblaient appartenir à un autre monde, celui du froid éternel. Des vents ancestraux et invisibles, seulement trahis par les traînes de poudreuses qui se formaient dans leur sillage tout là-haut, très loin. L'ombre et la lumière. Dans la nature, comme chez l'homme. Une abeille bourdonna à ses oreilles, en lui tournant autour, avant de filer vers un bouquet de gentiane d'un bleu éclatant. Ludivine se sentait d'un calme comme elle n'en avait que rarement éprouvé, presque méditatif. Elle avait vécu sa propre mort, et cela l'avait à jamais transformée. Elle savait ce que c'était que de renoncer à tout espoir. Il lui avait fallu du temps pour remonter la pente, pour revivre. Elle avait d'abord cru qu'avoir survécu à Val-Segond aurait un effet bénéfique, euphorisant, avant que la réalité ne la rattrape. Il en avait été tout autrement. Un long tunnel dépressif. Les petits plaisirs du quotidien avaient mis du temps à la toucher à nouveau. Mais maintenant, elle se sentait plus posée. Elle ne se réveillait plus en eau au milieu de la nuit. Il ne lui restait que quelques angoisses nocturnes de temps à autre. Une première étape de franchie. Dans sa poche, le porte-clés des New York Giants d'Alexis ne la quittait plus. Comme tous les souvenirs de ce mois d'octobre, qui avait fait basculer son existence, et qui s'était soldé par sa rencontre avec Joshua Bourlin. Un homme qui la hantait encore parfois, aussi fascinant qu'effrayant. Lui aussi traquait cette même conjuration primitive qui obsédait tant Richard Michaelis, même si lui ne lui avait pas donné de nom. Un prédateur de prédateurs, qui avait compris que le monde changeait, que la société avait amorcé un tournant depuis plusieurs décennies, que la violence n'était pas un phénomène parallèle, mais bien une jauge, un langage à comprendre, pour estimer l'état réel d'une civilisation. Brolin, comme Michaelis, savait que l'homme n'avait pu traverser un siècle de violence extrême, de guerre meurtrière à l'échelle mondiale, sans qu'il y ait d'impact sur l'expression reptilienne de l'humanité, sur la résurgence d'atavisme primitif. Ces instincts cruels et belliqueux, qui avaient permis à l'humanité de survivre pendant des centaines de milliers d'années, au milieu d'une nature hostile, de se hisser peu à peu au sommet de la chaîne alimentaire. Ces instincts de tueur, sans aucune pitié, qui avaient guidé l'humanité pendant plus de 99% de son évolution en tant qu'espèce animale, avant d'atteindre l'âge de raison. Quelque chose s'était réveillé. L'humanité traversait une période de crise profonde, et personne ne semblait prêt à l'entendre. Elle était sur le seuil d'un bouleversement majeur, que chacun réfutait d'un geste entendu, comme s'il ne s'agissait là que d'un hasard, d'un épiphénomène sans conséquence. La société tout entière semblait préférer se mettre la tête dans le trou et se recentrer sur ses problèmes de consommation frustrés par les crises économiques récurrentes. Joshua Brolin avait compris, comme Richard Michaelis, qu'il se tramait autre chose de plus sombre, dans les arcanes du monde, dans les fissures du quotidien. Et comme Michaelis encore, il avait découvert l'existence de la conjuration primitive. Il avait suivi la piste d'enlèvement à la frontière américaine, jusqu'à Val-Segond. C'était à lui que Ludivine devait d'être encore en vie aujourd'hui. Mais pour autant, vivre ne l'avait pas rassuré. Car depuis ce jour d'octobre, où elle avait eu cette conversation avec le détective privé américain, ces derniers mots continuaient de flotter dans un coin de sa conscience. Pestilence et Val-Segond ne sont pas des cas isolés, miss. Il y en a d'autres, avait-il dit, ailleurs, peut-être plus organisée encore, parce que l'humanité n'a pas fini d'engendrer des parias, des détraqués, des épaves et des pauvres types, et qu'ils comprendront qu'en se rassemblant, ils deviendront une force. Ils ne peuvent se soigner, car ils ne sont pas malades au sens médical, ils sont différents. Ils se sont construits sur leur déviance, et rien ne peut plus les faire changer désormais. Plus la société prendra conscience qu'ils sont nombreux et incurables, plus elle se radicalisera, et plus ils seront acculés à s'unir pour ne pas périr. Il y a d'autres hameaux quelque part, d'autres villages. Ils sont là, tout autour de nous. Ils s'organisent, dans l'ombre, dans le silence. Ils sont invisibles, et nous n'avons pour les traquer que l'empreinte de leur existence, leur crime. Ludivine avait encaissé le discours comme un coup de poing. Et qu'adviendra-t-il si vous dites vrai? S'il y en a de plus en plus et qu'un jour la société cesse de fermer les yeux? Avait-elle demandé. Joshua Brolin avait planté ses iris noirs, comme les ténèbres, dans ceux de la gendarme. Et elle s'était sentie terriblement vulnérable. Il adviendra alors ce qu'il advient toujours avec l'homme, quand deux factions différentes s'opposent et ne se comprennent pas. Ce sera la guerre. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, comme s'ils avaient été prononcés le matin même. Elle n'avait plus revu le détective privé, comme s'il n'avait pas existé, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve ou un cauchemar. La plupart des habitants de Valsegond avaient péri dans l'affrontement avec les forces de l'ordre, refusant de se rendre. Les familles s'étaient pour la plupart barricadées, avant de mettre le feu à leurs appartements. Et faute de services d'intervention efficaces sur place, elles avaient presque toutes brûlé. Deux jours durant, le village avait été ravagé par les flammes. Ludivine n'eut jamais le décompte exact des cadavres trouvés dans les semaines, et même les mois suivants. Elle s'était arrêtée à plus d'une centaine, car beaucoup n'étaient plus que des tas de cendres. Même le corps de Carte Brussin n'avait pu être identifié avec certitude, ce qui avait valu à Ludivine plusieurs nuits d'insomnie, avant qu'elle prenne conscience que personne n'avait pu fuir. Le village, en flammes et isolé par le froid, avait été quadrillé par la GRC, et personne n'avait pu s'échapper avec un véhicule, sans être aussitôt repéré par un des hélicoptères. Brussin était mort, tout comme Locard et leurs fidèles. Valsegond avait abrité des pervers, des tueurs, des violeurs, des pédophiles, tout ce que la société comptait de pire et qui, entre eux, avait trouvé un terrain d'entente. Pendant presque 30 ans, ils s'étaient rassemblés petit à petit. Ils s'étaient entraidés à chasser loin, les uns pour les autres, à brouiller les pistes, à se structurer. Il y avait un orphelinat qui accueillait des enfants inuits pour les pédophiles, même des couples qui avaient procréé pour alimenter le réseau. Il y avait aussi les routiers pour enlever des femmes, et parfois des hommes, ou des adolescents loin au sud, jusqu'aux États-Unis. Tout était parfaitement orchestré. Ils se recrutaient les uns les autres par le biais de parrainages, à travers les prisons, puis Internet. Ils s'obligeaient à tuer les uns pour les autres, pour être tous soudés ensemble. Et Valsegond avait prospéré pendant tout ce temps sans se faire remarquer, loin au nord, sur un territoire isolé, avec sa propre administration, sa propre police, et personne pour rendre des comptes. Maintenant, tout était terminé. Même le tueur en Espagne, Zaroff, comme l'avait surnommé Ludivine, avait été identifié et arrêté par les flics sur place, dans la banlieue nord de Madrid. C'était fini. Sauf si Joshua Brolin avait raison. Et qu'il existait d'autres rassemblements dans le monde, d'autres communautés monstrueuses. Au loin, le rapace s'immobilisa un bref instant, et soudain, piqua vers le sol pour saisir une proie entre ses serres. Des coups d'aile, un cri de désespoir, et l'oiseau reprit son envol, avec un petit corps entre les griffes. Le minuscule mammifère n'était pas mort, pas encore. Mais il était immobile et silencieux, résigné. le divine se leva, les fesses meurtries par la pierre. Plus haut, sur la pente, elle vit une silhouette colossale passer avec un gamin sur les épaules. C'est Nion. Il avait survécu, terré dans un recoin toute la nuit, jusqu'à l'intervention de la GRC. Lui n'avait pas changé, toujours jovial et obsédé par sa famille. Il y avait bien des moments de tristesse que sa collègue surprenait au coin de ses yeux. Mais globalement, sa nature avait repris le dessus en peu de temps. Ludivine grimpa à travers les herbes, en direction des rires d'enfants. Les silhouettes de Sénion, Laetitia et leurs jumeaux se mêlaient à celles de Michaelis et les siens. Le criminologue boitait en portant un paquet de chips à sa femme. C'était tout ce qui restait de ceux qui avaient traqué Gert Brussin et sa horde. Ils étaient trois témoins du mal. Ludivine enfouit sa main dans la poche de son jean et sentit le porte-clés au bout de ses doigts. Elle ne parvenait pas à oublier Alexis. Du moins, pas comme elle aurait dû. Elle allait souvent lui parler sur sa tombe avant le crépuscule et menait une vie de célibataire solitaire depuis. Alexis lui manquait. Pas seulement en tant que collègue, mais comme une autre solitude capable de la comprendre. Lorsque Ludivine arriva au niveau des pique-niqueurs, Sacha, la fille de Michaelis, cria son nom et se précipita pour l'attraper par la main et l'entraîner vers les couvertures tendues sur le sol. La fillette voulait partager son déjeuner avec la gendarme. Elle s'était prise de passion pour elle. Les coups de foudre, même enfantins, ne se commandaient pas. Ludivine se laissa faire et prit l'assiette que Sacha lui avait remplie. « Tu vas manger !» commanda la blondinette. « Parce que je trouve que tu te laisses aller !» Michaelis et sa femme rirent, un peu gênés. Ludivine passa la main dans les cheveux de la petite fille. Les enfants ne s'embarrassaient pas de vernis. « Mange, sinon tu n'es pas un bon exemple pour nous !» sermonna Sacha. « Les grands doivent montrer l'exemple aux plus jeunes !» Cette fois, Ludivine n'eut pas envie de rire. La gamine avait raison. Il fallait se tenir droit. Servir de point de repère. Même si l'horizon semblait bouché, c'était son rôle d'adulte. Le rôle de tous les adultes que d'être responsable, pour l'équilibre des plus jeunes. Et pour ne pas les effrayer. Ludivine s'en voulut aussitôt d'être aussi sinistre. Regardant les Michaelis et la famille de Sénion proches les uns des autres, elle surprit leur regard plein d'amour lorsqu'ils guettaient le comportement de leur progéniture. La famille était un rempart. Face à la violence, à la mort, face à la réalité du monde, face à la conjuration primitive. Richard Michaelis l'avait bien compris en fuyant son ancien métier. Pourtant, il en fallait des êtres comme lui, et comme Joshua Brolin. Des êtres à la lisière, à la limite eux-mêmes, capables de scruter et comprendre les ombres. Des êtres retenus dans la lumière par un tout petit quelque chose, par une force qui les dépassait, la force d'un noyau solide, d'une unité à plusieurs. Si Michaelis avait finalement renoncé, combien de temps Brolin tiendrait-il? Fallait-il se damner pour garantir à la société le minimum de vigilance nécessaire à sa survie? Qui pouvait être volontaire pour une existence si seule et angoissée? Joshua Brolin n'avait donc pas trouvé sa famille? Les enfants de Sénion riaient un peu plus loin. L'avenir était là, songea Ludivine, sans savoir si elle en serait un jour capable, ni même digne. Ne serait-elle pas plutôt un jour un de ces veilleurs, incapable de se fixer, obsédé par le danger? En avait-elle la fibre? Pour l'heure, elle se sentait hantée. Car les fantômes existent, elle le savait maintenant. Et ils sont l'incarnation de nos déséquilibres. Elle n'en manquait pas. Sacha sembla sentir quelque chose, car elle déposa précautionneusement son assiette en plastique sur la couverture et s'approcha de Ludivine pour la serrer dans ses bras. Une petite fille sans calcul, pleine d'amour, prête à le partager. Une petite fille comme Ludivine l'avait été il y a longtemps. Au-dessus d'elle, le rapace passa en opérant plusieurs cercles, et la jeune femme fut incapable de le lâcher du regard. il vira brusquement et finalement s'éloigna. L'heure n'était pas à la chasse, pas encore. Les prédateurs étaient repus, pour un temps au moins.